Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, on va traiter aujourd'hui d'une question régionale. La question de l'autoroute A69. Et pour traiter ce sujet, j'ai devant moi Pierre, militant écologiste qui a participé entre autres au dernier rassemblement. Bonjour Pierre.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, cette question d'autoroute, c'est d'abord la question de savoir si en 2023, la priorité est aux tout routiers, puisque c'est bien le sujet, en sachant que c'est un projet qui date d'une trentaine d'années, qui est donc ressorti des cartons pour passer à la mise en œuvre, sauf qu'on est en 2023 et qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur ce choix de construire une autoroute plutôt que de développer d'autres modes de transport. On parle bien évidemment d'environnement, de pollution. Faut savoir que sur notre planète comme en France, le premier poste de pollution et donc d'effet de serre, c'est le routier et en particulier le routier marchandise. Et donc, est-ce qu'il faut aller aujourd'hui dans cette voie-là? C'est la question du jour. En tout cas, pour nous, c'est la bonne question, mais pas pour tout le monde, visiblement. Donc, je vais passer la parole à Pierre pour qu'il nous dise un petit peu où on en est de ces questions environnementales par rapport à ce tronçon d'autoroute A69.
Ouais, effectivement, c'est un projet du coup vieux de 30 ans qui correspond à un âge qui semble aujourd'hui un peu dépassé, un projet qui était poussé à l'époque par Pierre Fabre lui-même, industriel, pharmaceutique, grand patron d'entreprise locale, et du coup un projet d'autoroute qui a un impact forcément environnemental fort. C'est entre 350 et 400 hectares de terres agricoles qui sont menacées, plus de 200 arbres centenaires, des espèces protégées qui sont sur tout le long du tracé et dont la présence a été finalement jugée pas très importante.
Donc un projet qui pose des questions en termes d'environnement par rapport au tracé, qui pose donc la grande question de savoir s'il nous faut plus de voitures et plus de camions ou moins. Et donc là-dessus, on a un problème, puisque finalement, plutôt que d'améliorer la nationale existante qui a déjà été améliorée, finalement, il est question de repiquer finalement les tronçons de 2x2 voies à usage non payant, puisque c'est la nationale, pour les déclasser et les faire rentrer dans ce projet d'autoroute. Donc du coup, avoir un accès payant ou alors repasser par les petites routes mais à l'intérieur des villages et allonger le temps de trajet des gens qui ne voudraient pas prendre l'autoroute. Donc là, il y a un tour de passe-passe assez malhonnête parce qu'on repique finalement les parties de la nationale pour les confier à l'autoroute et on allonge le temps de trajet des gens qui ne veulent pas prendre l'autoroute. Donc ça, c'est un des aspects en plus de ces questions environnementales, qui est particulièrement négatif. Donc je voulais le dire, puisqu'en fin de compte, c'est bien la décision d'obliger les gens à prendre l'autoroute. Alors sur ces questions environnementales se pose bien sûr aussi la question de la pollution. Donc Pierre a commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur finalement ces choix aujourd'hui du tout routier?
Oui, c'est sûr que déjà il y a au niveau de la construction même et du chantier même, on est loin des objectifs de zéro artificialisation nette. C'est une zone qui va clairement être, il va y avoir une coulée de béton énorme qui va se déverser sur cette région. Pour construire cette autoroute, il leur faut aplanir le terrain, il leur faut creuser à des endroits et remblayer à d'autres. Au plus profond, autour de Puy-Laurence, ça creusera au moins sur 20 mètres. Donc à différents endroits, la nappe phréatique est directement impactée. Ce qui, au-delà du coup des abattages d'arbres qu'il va y avoir besoin, dont il va y avoir besoin pour le trajet, il va y avoir en fait un assèchement véritablement du territoire. Et donc, en termes de, enfin, autour de la question de l'eau, c'est un véritable souci, quoi. Au-delà même de, du routier en lui-même, déjà rien que les travaux eux-mêmes, c'est déjà un, parce que la zone d'impact d'un chantier pour une autoroute, elle est beaucoup plus large que l'autoroute lui-même. Ça, c'est vraiment toute la région qui est concernée par ce chantier, quoi.
Et donc, parmi ceux qui sont contre, nombre de paysans qui se retrouvent à avoir des champs qui seraient de l'autre côté de l'autoroute, qui les obligeraient à faire des kilomètres pour pouvoir s'y rendre en recherchant un pont qu'ils n'ont pas besoin de trouver aujourd'hui, puisque ce n'est pas coupé en deux. Alors, dans les alternatives, il y a bien sûr la question du rail. Et ceux qui argumentent du décloisonnement ont quand même un certain culot, puisque la ligne de rail qui reliait Castres à Albi a été supprimée. Donc il faut quand même le dire. Donc ça aurait été probablement une des bonnes batailles à mener plutôt que de construire une autoroute. Alors sur le rail, il faut savoir que la ligne actuelle qui relie Castres en passant par Saint-Sulpice-du-Tarn pour arriver à Toulouse est sous-entretenu, ce qui fait qu'aujourd'hui les transports de marchandises sont interdits sur cette voie-là, puisque la voie n'est plus de suffisante qualité pour pouvoir supporter le poids de transport rail de marchandises. Donc ça, c'est un scandale et il faudrait certainement aller en ce sens, c'est-à-dire de réhabiliter le rail et le transport de marchandises par voie ferrée plutôt que de transporter les marchandises sur les routes. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect pour le rail, ce serait également de doubler cette voie ferrée pour améliorer la circulation, puisqu'aujourd'hui, les trains ne peuvent se croiser que sur certaines gare où il y a encore du personnel pour pouvoir gérer la manœuvre. Donc là, on a une voie d'amélioration certaine, c'est d'améliorer le rail plutôt que la route, puisque vous le savez sans doute, on dit que, grosso modo, le rail pollue 10 fois moins que la route. C'est un ordre d'idée, mais c'est quand même un ordre d'idée intéressant à retenir. Alors, il y a un autre argument, je vais laisser Pierre le développer. On nous parle de décloisonnement de Castres. Alors ça veut dire quoi, décloisonner Castres, alors que, comme je viens de le dire, on a déjà supprimé la ligne de voie ferrée entre Castres et Albi. Est-ce que c'est le bon argument? Est-ce que ça marcherait pas dans les deux sens? Qu'est-ce qui risque de se passer finalement avec une autoroute qui est censée décloisonner mais qui va peut-être avoir d'autres effets?
Oui, c'est le grand argument, notamment porté par la Dépêche, de dire que Castres-Mazamet est le seul bassin d'emploi en France qui n'est pas relié par un autoroute à sa ville, à sa grande ville la plus proche, que c'est une injustice terrible. Du coup, il cite Montauban, il cite Rodez, il cite Albi, en disant voilà, toutes ces villes ont droit à leur autoroute et pas Castres-Mazamet. Bon, ce dont on se rend compte, c'est que une liaison autoroute ne fluidifie pas le trafic. Cette liaison autoroute Castres-Toulouse est vraiment un projet absolument inutile. Des estimations les plus basses, c'est entre 5000 véhicules qui transitent sur cette portion de 45 km par jour. Bon, il y en a des un peu plus hautes, mais globalement, on est dans cet ordre d'idée. Pour une autoroute, je crois qu'il est dit que c'est jusqu'à 3 fois plus qu'il faut pour justifier de tels projets. Et en fait, ce à quoi ça conduirait à terme, c'est déjà un développement du transport logistique. Cette liaison, elle est uniquement orientée vers le transport logistique et non pas vers les gens. Et ça conduirait aussi à une concentration de l'emploi sur Toulouse, à aussi un développement de Castres en tant que cité dortoir, potentiellement une augmentation des loyers aussi, une injustice sociale terrible.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'on nous prétend que Castres-Mazamet, qui n'est d'ailleurs pas le même bassin d'emploi, finalement serait la seule région de France sans autoroute de plus de 100 000 habitants. Donc là, on a un peu tordu les chiffres. C'est tout à fait faux, hein, puisque il y a Cherbourg, il y a Brest, il y a Le Havre, etc., etc., où il n'y a pas d'autoroute. Par contre, il y a des voies rapides. Et c'est ce qui est demandé. Et puis, ça a déjà été en partie fait, hein, c'est-à-dire des deux fois deux voies pour éviter de passer dans les villages. Et qui règle la question, sauf que là, il n'y a pas de pognon à se faire quand on est une multinationale. Des autoroutes, c'est bien le sujet, faire des sous sur le dos des usagers qui ne sont plus usagers, mais qui se retrouvent clients.
Et de toute manière, pour aller dans ton sens, tous les projets d'alternative à cette autoroute ont été balayés d'un revers de main, notamment la rénovation de la RN 126, la route nationale, qui est un projet vraiment étayé depuis de longues années, porté par des militants de terrain depuis de longues années, qui n'a jamais été étudié.
Donc on est bien sur des intérêts particuliers. Ceux qui vont toucher du pognon, votre argent, enfin si vous prenez l'autoroute, sinon vous prendrez l'ancienne nationale, celle qui repasse au milieu des villages, puisque il est question de 16 euros à l'heure. Aller et retour quand même, le prix de cette autoroute entre Castres et Toulouse pour environ 80 km, donc ça fait quand même cher. Alors, dans ce contexte, il y a des luttes qui s'organisent. Pierre a participé au dernier rassemblement, il peut nous en dire un mot.
Ouais, je pense qu'il est bon aussi de rappeler, de dire leur nom à ces concessionnaires autoroutiers. Pour la portion Castres-Verfeil, c'est NGE Atosca. Et pour Verfeil-Toulouse, c'est Vinci, qui n'aura aucun quasiment travaux à faire, récupère juste la nationale entre Verfeil et Toulouse et la privatise.
Voilà. Vinci qui devait avoir besoin de sous, comme on le sait, puisque elle est déjà dans tous les mauvais coups. Il était entre autres au Qatar, Vinci. Bon, on n'est plus à ça près pour le mondial de football. Alors, les luttes s'organisent. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ce grand rassemblement? Réussite ou pas réussite?
Ben, grande réussite populaire, une mobilisation complètement inespérée. En novembre dernier, le collectif La Voix est libre, qui tente d'alerter sur ce projet depuis maintenant longtemps, avait réuni sur une grande marche pendant 4 jours sur tout le tracé, avait réuni entre 400 et 600 personnes. Et là, il y a quelques semaines, on était 8000 contre ce projet. Donc voilà, une vraiment grande réussite populaire, festive, déterminée. C'était un... Voilà, c'est un moment qui quand même a forcé le gouvernement à réagir. On a entendu le ministre des Transports après ça, On a entendu toutes les voix aussi qui essayent de porter ce projet, se réveiller pour... et voilà, eux aussi sentent le vent tourner et sentent qu'il est difficile de défendre ce projet complètement inutile, destructeur. Mais ils vont continuer à le faire par contre, mais bon.
Enfin, ils vont continuer à le faire si on les laisse faire. Alors peut-être de citer, on va forcément en oublier, mais quelques organisations qui ont dit officiellement qu'elles étaient contre ce projet.
Oui, bien sûr. Mais La Voie est libre, en partie le collectif local avec des agriculteurs, tout un ensemble de personnes qui luttent localement depuis longtemps contre ce projet. Il y a bien sûr la Confédération paysanne à la fois au niveau du Tarn et au niveau national. Il y a des collectifs militants comme Extinction Rébellion Toulouse, comme les Soulèvements de la Terre. Il y a tout un ensemble d'élus, tout un ensemble de députés et finalement tout un ensemble de personnes qui soit habitent dans le coin, soit habitent à Toulouse, soit habitent même loin. Il y a un collectif aussi qui s'appelle la Déroute des Routes, qui réunit toutes les contestations au niveau national sur les projets autoroutiers et qui était présent à ce week-end. Enfin, voilà, c'était vraiment un ensemble de composantes très large.
D'accord. Alors, je voulais citer aussi, puisque c'est ma chapelle, la CGT, parmi tant d'autres, hein, qui se sont exprimés en disant qu'il y avait autre chose à faire, et je l'ai un petit peu développé, notamment la question du rail. et la question de l'amélioration de la route nationale existante qui resterait, en tout cas dans notre optique, au service des usagers et pas finalement une transformation en client qui devrait payer pour pouvoir aller bosser et se déplacer. Voilà, c'était un petit résumé de cette discussion sur la 69, une lutte qui s'ouvre et qui va encore faire parler d'elle, en sachant que le dérèglement climatique, lui, il ne nous attend pas. Hein, les choses se précipitent et on a besoin de prendre des grandes et des bonnes décisions dans ce domaine, c'est-à-dire tout le contraire de ce projet d'A69. Ce sera pour moi le mot de la fin. Pierre, si tu veux compléter quelques mots que nous aurions oubliés sur ce panorama là de projet d'A69, je te laisse, pour ce qui te concerne, dire ton mot de la fin.
Ouais, peut-être c'est un petit mot sur le volet social. Il y a quelques jours aussi, du coup, Carole Delga a rebondi par rapport à ce projet et a assuré que ce ne serait pas une autoroute pour les riches et que pour les gens qui font le trajet régulièrement, ce ne serait qu'une centaine d'euros par mois. Bon, vu les salaires actuellement, déjà, voilà, on sait qu'on est amputé déjà 200 euros, sans compter le prix de l'essence. Donc voilà, vraiment, ces gens sont sur une autre planète. Et cette autoroute ne passera pas.
Et voilà, une centaine d'euros par-ci, une centaine d'euros par-là. Qu'est-ce que c'est de nos jours ? Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, en remerciant Pierre de m'avoir aidé à se traiter ce thème de la 69. À la semaine prochaine.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Télus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.